Thierry Colombier, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, essayiste, spécialiste du crime organisé, du grand banditisme en France, auteur notamment d'un ouvrage « La French Connection, les entreprises criminelles en France » paru aux éditions Non-Lieu. Bonjour également à Philippe Pujol.
Bonjour.
Journaliste pour 7 Info, c'est un média suisse, prix Albert Londres il y a 2 ans pour une série de reportages sur le trafic de drogue dans les quartiers nord.
Et vous avez d'ailleurs fait un livre de cette expérience dans les quartiers nord, hein, La fabrique du monstre. Dans ces quartiers, quelle est la place du football ?
Une place centrale, ça structure évidemment, ça permet de mettre en avant toute son idéologie locale, son identité locale, donc l'Olympique de Marseille avant tout. Et ensuite, il y a les équipes nationales, donc ils sont pour la France dans les quartiers nord, mais ils sont aussi pour leur pays d'origine. Donc beaucoup vont être pour l'Algérie, beaucoup vont être pour le Sénégal, par exemple, vont être pour le Portugal, pour l'Italie. On va avoir cette double identité qui se voit dans le football.
Et on entendait dans le reportage de Stéphane Burgat, ça a aussi un rôle social dans ces quartiers.
Évidemment, là, on entendait des gens que je connais bien, Omar, par exemple, qui ont bénéficié là, grâce à 7 euros, ont bénéficié de la rénovation d'un petit stade. Et les gamins et les plus grands vont être autour de ce stade pour jouer au foot, mais aussi pour se rencontrer, pour discuter. Mais ça marche dans les quartiers nord, ça marche dans les quartiers du centre-ville, ça marche partout, sauf que dans le nord, pendant longtemps, la Sauvagère, c'est pas les quartiers nord, c'est un quartier plutôt au sud, mais qui est du même label, c'est-à-dire que c'est un quartier de la relégation là aussi, comme dans le nord. Les terrains de foot, les infrastructures n'ont pas toujours été la priorité des élus locaux. Et donc là, par exemple, pour refaire ce terrain, il a fallu que ce soit des bénévoles anglais qui le fassent.
Bruno Faure ?
On suit forcément toutes les compétitions, la Coupe du Monde, l'Euro 2016. Vous disiez qu'il y a d'autres nationalités qui sont représentées. On supporte forcément l'équipe de France quand on est issu d'une autre origine ?
Clairement, ils sont pour l'équipe de France. Ça, c'est très, très visible. Ils sont dans ce pays et ils sont, pour beaucoup, ils subissent une stigmatisation, pas positive pour le coup, mais justement pour se raccrocher à une identité, il y a des côtés négatifs, mais il y a un côté positif qui va être le football. Le football va vraiment faire qu'ils disent « Oh les gars, je suis français, puisque je suis pour la France, je suis français ». Donc c'est vraiment quelque chose d'utile.
Cette fusillade maintenant à Marseille, dans le 15e arrondissement, 2 hommes ont été abattus à la Kalachnikov. Une adolescente qui se trouvait à proximité a été grièvement blessée.
Les quartiers nord qui sont revenus dans l'actualité pas plus tard que le 25 juin avec un nouveau règlement de compte, comme on dit. 2 hommes abattus dans leur voiture dans le quartier Consola. Cette fois, il y a une victime collatérale, une adolescente de 14 ans grièvement touchée. Sa vie n'est plus en danger. Philippe Pujol, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans l'actualité, ces fusillades dans les quartiers nord.
On a 15 à 20 morts, 25 pour les grosses années à Marseille, et ça depuis plus de 100 ans. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau. Il y a eu des années très basses, des années plus hautes, mais grosso modo, on est une ville portuaire avec une histoire de banditisme. Enfin, il y a tout le terreau avec de la misère, avec des inégalités sociales, avec des quartiers populaires dans la ville. Tout ça fait que on a tout le terreau pour qu'il y ait des règlements de compte. Là où il faut relativiser les choses, c'est qu'à Naples, ils sont à plus de 200, 300 morts par an. À Baltimore, souvent on compare Marseille et Baltimore aux États-Unis, ils sont 170 morts par an. Nous, on est à moins de 20. C'est beaucoup trop, mais c'est pas autant qu'on a l'impression. C'est-à-dire que c'est choquant, ok, à cause de l'arme, mais c'est pas tant que ça.
Thierry Colombier, on parle à chaque fois de règlements de compte, mais finalement, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire tout simplement qu'on règle les comptes et que les comptes sont souvent financiers. C'est toujours très difficile d'arriver à identifier quelles sont les sources des règlements de comptes. Mais là, la plupart du temps, c'est souvent des règlements de comptes financiers qui sont liés tout simplement au crédit. Il faut savoir que c'est une industrie qui vit sur le crédit. Les personnes qui vont acheter en gros, par exemple, 500 kilos de shit, ils vont laisser pour moitié au comptant et pour moitié à crédit. Et donc, à un moment donné, s'il y a des personnes en dessus ou en dessous qui payent pas, parce qu'ils sont trop gourmands, parce que les frais sont très importants, parce que ils ont besoin de cet argent pour faire autre chose, une autre culbute, comme on dit, à ce moment-là, il va y avoir une inflation du crédit. Et à un moment donné, un homme devient dangereux lorsqu'il est vraiment surendetté. Et là, on va pas voir un conseiller spécial à la banque, puisqu'on suppose qu'il là, il va devenir un indicateur pour la police et ça devient très, très dangereux.
Un bon effort.
Quand on est en danger, on se cache.
Non, on n'est pas obligé de se cacher. On peut, comme je le disais, on peut rejoindre les rangs de la police aussi hein, pour trouver une protection. Ça dépend, c'est très varié. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, le règlement de compte est toujours la dernière négociation. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait un règlement de compte, il y a d'abord des négociations. Et si elles achoppent, eh bien, on en vient à la mort finale.
Vous vouliez réagir, Philippe Pujol? Oui.
Par exemple, un des éléments de diplomatie avant le règlement de compte, c'est la séquestration. Et ça, on est peu au courant. On est au courant uniquement quand la police intervient sur une séquestration. Mais il y a énormément de séquestrations, parfois avec torture ou non, qui font qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'au règlement de compte pour obtenir
ce qu'on veut obtenir. C'est une prise d'otage pour récupérer l'argent.
C'est ça,
on rend votre gars et on en récupère dessous.
Celui qui doit 30 000 euros, on l'attrape, on l'amène quelque part et pendant plusieurs jours, on le brûle à la cigarette au mieux et il finit par les trouver, les 30 000 euros. Et quand vraiment on n'arrive jamais à l'attraper et qu'il doit beaucoup d'argent, en effet, dans ce cadre-là, il peut aller jusqu'à un règlement de compte. Le règlement de compte, ça ne montre qu'une seule chose, ça montre de la concurrence. Quand il y a un lieu, quand il y a un marché concurrentiel, ben ça finit par un règlement de compte. Ce sont les OPA du monde légal, et ben l'OPA dans le banditisme, et ben elle finit par la Kalachnikov.
Bruno Faure.
Alors justement, le quotidien des policiers, on va voir ça avec Marc Lamola, qui a été policier à la BAC, la brigade anti-criminalité, dans les quartiers nord de Marseille. Il a quitté la police depuis, il a écrit plusieurs livres, dont celui-ci, Le sale boulot, confession d'un flic à la dérive. On l'écoute.
Le quotidien d'un flic dans les quartiers nord, il est celui d'un flic qui est harcelé, qui est sans cesse soumis à une pression terrible de sa hiérarchie et aussi de la rue. Énormément de faits à constater, énormément de problèmes à résoudre, mais aussi des invectives et des insultes et des provocations permanentes. Pour des raisons qui sont parfois électorales, parfois financières, on a laissé tomber tout un pan de la société marseillaise et évidemment les quartiers nord.
Il y a quand même une prise de conscience quand on détruit certaines tours de la Castellane, par exemple, symbole du trafic de drogue.
Alors, évidemment, aujourd'hui, on s'attaque à ces structures de ces cités qui datent des années 60 ou 70 et qui sont évidemment un terrain propice à ce type de trafic, eu égard à leur configuration. J'ai des souvenirs, moi, lorsque j'étais en activité, qu'il nous était impossible d'y pénétrer, autrement qu'à 6 heures le matin, sans être agressé, voire même fait prisonnier au sein de ces cités-là. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il va y avoir des tours, et notamment la Tourca à la Castellane, qui est la cité où se déroule le plus gros trafic sur Marseille, qui a été détruite. Le travail est énorme, la tâche est monstrueuse. C'est le premier pas.
Marc Lamola qui a écrit une lettre ouverte à Manuel Valls et qui écrit maintenant des polars.
Mais Philippe Pujol, vous avez passé beaucoup de temps dans ces quartiers nord. Marc Lamola parlait finalement des constructions, de la façon dont les cités ont été bâties. Et c'est vraiment un problème.
Alors il faut savoir par exemple à Castellane que quand elle a été faite, c'était un exemple de réalisation de logements sociaux, que au début c'est une cité qui rapatrie les pieds noirs de la guerre d'Algérie, d'après-guerre d'Algérie, et qu'au début c'est des ministres y venaient déjà, mais pour montrer à quel point c'était une réussite. Sauf qu'on n'avait pas imaginé que le trafic de stupes qui se trouvait aux États-Unis à cette époque-là, c'est-à-dire on fabriquait la drogue à Marseille, on la vendait aux États-Unis. On n'avait pas imaginé qu'il allait avoir une inversion de ça et que la vente au détail allait finir par se faire à Marseille. Et donc ces lieux-là sont devenus des lieux très compliqués à gérer ou qui étaient parfaits pour les dealers.
Oui, Thierry Colombier, on a l'impression qu'effectivement c'est devenu des pièges, des endroits où on peut guetter, surveiller et finalement la police se retrouve un petit peu prise au piège, coincée. Pas sur son terrain, finalement.
Je ne sais pas si la police est prise au piège. La police, elle travaille depuis des années, depuis des décennies sur le trafic de drogue. Hein. C'est pas nouveau. Effectivement, aujourd'hui, on va dire que c'est un lieu ouvert où de nombreux Marseillais, quand même, font le déplacement. Hein. Il faut jamais oublier qu'il y a une action sociale qui est très forte puisqu'on a un déplacement de la richesse des quartiers riches vers les quartiers pauvres. Hein. Parce que c'est pas que du trafic, c'est pas que du travail de la police, il y a aussi une action politique, il y a une action sociale, une action culturelle. C'est pas seulement un ensemble d'immeubles comme ça qui s'approvisionne en trafic de stupes et qui fait que du deal, c'est pas que du business, c'est aussi un ensemble social qui est très important pour une ville, et c'est aussi d'ailleurs une composante de cette ville-là. Il faut pas imaginer que au niveau du clientélisme, et Monsieur Pujol est là. Il l'a démontré dans son bouquin, c'est très important. Donc voilà, alors la police, oui, il y a aussi des problèmes de corruption hein, qui sont liés effectivement au problème du crime organisé. Donc on peut se poser aussi beaucoup de questions. Encore faudrait-il connaître le sujet.
Bruno Faure.
Est-ce qu'il y a assez de policiers aujourd'hui dans les quartiers nord?
Non, c'est pas une question d'assez de policiers, c'est une question de connaissance du sujet.
Ça compte aussi quand même.
Non, je suis désolé, c'est vraiment un problème de connaissance du sujet. On est dans un pays où il n'existe pas de chercheurs sur le sujet. Vous pensez que c'est normal? On est le seul pays européen où on ne dispose pas de chercheurs qui travaillent sur le sujet, sur le trafic de drogue. Ça n'existe pas. Si demain vous me demandez quel est, par exemple, le chiffre d'affaires à Marseille sur la vente au détail, personne n'est capable de vous le dire, et pas même un policier. Donc commençons à connaître le sujet et après on pourra éventuellement établir une batterie d'actions pour pouvoir y remédier.
Pour en revenir juste au logement, à la destruction et l'évolution de ces quartiers, Marc Lamola a évoqué la Castellane où la tour où a vécu Zinedine Zidane a été détruite. Et vous y êtes rendu, Stéphane Burgat, tout récemment.
Oui, pour les premiers coups de pioche au printemps, des grands travaux de requalification de la Castellane. Donc cette cité à l'architecture vraiment fermée, ce petit côté labyrinthe, la Castellane... Donc, il sera éventré. Il y a une rue qui va la traverser dans le but, eh bien, de gêner ces points de vente de drogue, ces plans stupes. Et symboliquement, eh bien, les mâchoires des bulldozers ont commencé par faire tomber le petit bâtiment au pied duquel, eh bien, Zizou a frappé ses premiers ballons. Une page qui se tourne, oui, et ça coïncide avec, justement, une envie de changement de certains habitants.
Eh bien, moi, c'est triste pour moi de casser ça, parce que c'est quand même le souvenir de M. Zidane. Le papa et le fils qui habitaient là. Ils jouaient au ballon là, quand il était tout petit.
C'est un changement. Le quartier changera aussi, comme Zidane avait changé sa vie. Il a bien évolué. On voudrait bien que le quartier aussi évolue. Ah oui, j'ai 5 enfants, j'aurais bien voulu partir de ce quartier. Pourtant, je suis née là, j'ai grandi là, je me suis mariée ici, mais parce que le quartier, il a empiré. Hein. Le soir, on ne peut pas sortir à plus de lumière. À partir de 9h, c'est tout noir. On ne peut pas sortir, on n'est pas en sécurité, je vous dis. Pas du tout. En fait, c'est pas nous qu'on fait la loi, c'est les jeunes.
Hein. C'est les jeunes qui font la loi, Philippe Pujol, c'est une réalité?
Alors oui et non, c'est-à-dire qu'au quotidien, oui, ce sentiment-là est réel. C'est-à-dire que pour pouvoir... On a toute une batterie de guetteurs qui décident qui passe par où et quand. Et donc, en effet, il faut s'adapter à leurs besoins. Ensuite, ils font pas la loi sur l'ensemble de la cité, sur l'ensemble des décisions qui peuvent être prises. Mais j'imagine qu'au quotidien, ça doit être dur à vivre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rénovation, à chaque fois qu'il y a une destruction, les gens sont choqués par ça. C'est quand même leur lieu de vie. Il faut se rappeler que nous, on voit ça de l'extérieur, les quartiers nord, la Castellane, de suite, il y a des grands mots, c'est presque des gros mots. Et on a l'impression qu'on va les aider, quand on va les sauver en enlevant ça.
On oublie en fait qu'il y a une histoire.
Il y a une histoire, c'est leur lieu de c'est leur jeunesse, c'est l'école, et en plus on laisse penser, on fait croire que la problématique est uniquement liée à l'habitat. Or c'est pas du tout ça, la problématique est sociale. Demain on pourrait leur faire des petites villas comme ça se fait dans certaines zones citées. On a toujours des problèmes, il faut régler les problèmes d'emploi, il faut régler les problèmes d'intégration, de formation, etc.
Le logement, quand même, dans votre livre vous parlez beaucoup de l'insalubrité des logements.
Oui,
qui est une vraie problématique.
Je démarre principalement sur ça, mais pour démontrer aussi assez rapidement que la misère sociale se met aussi dans des lieux qui sont rénovés. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rénover. Bien sûr, il faut rénover, il faut améliorer, mais ça ne va pas améliorer la situation sociale. Or, on ne sait pas faire ça. On ne sait pas travailler sur la situation sociale.
Bruno Faure.
Thierry Colombier, vous avez travaillé sur la French Connection. La French, ça nous ramène aux années 70, 80, le juge Michel, Zampa. Ça existe encore, la mafia telle qu'on l'a connue à Marseille?
Ah, plus que jamais. Ça serait... vous savez, là on parle des cités, là on parle des gens qui travaillent. C'est-à-dire donc des gens à qui on demande des comptes tous les jours pour à la fois donc distribuer de la marchandise et surtout renvoyer de la monnaie. Mais ce sont pas les vrais acteurs du business. Les vrais acteurs du business, ce sont effectivement ceux qui sont les acteurs du très grand banditisme. Voilà, qu'on pourrait.
Il y a des parrains tels qu'on les a connus.
Alors les parrains, c'est pas les parrains à l'italienne. Hein. Ici à Marseille, on considère comme parrain c'est quelqu'un qui fait vivre 400 ou 500 familles. C'est ça la définition d'un parrain. Alors oui, il y a des gens ici qui font vivre 400, 600 familles, effectivement. Si on considère que ce sont eux qui sont les distributeurs et qui envoient, par exemple, tout le shit qui arrive du Maroc par l'Espagne ou quoi que ce soit. Donc ce sont des prestataires de services. Et ces gens-là, effectivement, ont une action très importante à tous les niveaux et surtout à Marseille.
On a parlé de Zidane, ça nous ramène au foot. Et à l'OM, c'est un club à l'image de sa ville avec des affaires liées au grand banditisme.
Bien sûr, parce qu'il y a de l'argent aussi. À Marseille, on dit quand il y a de l'argent, il y a de la combine. Hein. Donc il y a d'un côté des gens qui font de l'argent, et après il y a les braves gens, ce qu'on dit, les braves gens sont les gens qui n'ont pas d'argent, qui ne sont pas invités autour de la table pour manger le gâteau. Et bien ici, effectivement, si vous avez la possibilité de gagner de l'argent, eh bien on peut le faire. Et le football, malheureusement, est l'une des composantes de cet univers qui est très varié, puisque le vrai grand banditisme a un pied dans le légal, un pied dans l'illégal, et c'est très important. Il faut savoir que ça s'est fait sur la fortune de ces groupes criminels.
Et rapidement, ça s'est fait comment, alors, justement, ce banditisme par l'OM, par le biais de l'OM? Il y a eu des affaires là qui sont remontées dans la presse récemment.
Ben, on peut le faire de multiples façons. On peut imaginer tout simplement, par exemple, un club, et c'était le cas ailleurs, c'est d'abord une lessiveuse d'argent. Hein. Vous pouvez très bien faire des recettes fictives, ça c'est un premier point. Mais après, lorsqu'on voit qu'on peut faire de l'argent, on peut le faire par les transferts effectivement de joueurs, par les rétrocommissions, on peut le faire par l'action
des clubs. Transfert de Gignac qui fait partie
par exemple, de la France aujourd'hui. Par l'action des clubs de supporters qui peuvent être aussi un levier très important. Voilà, il y a multiples facettes.
Merci beaucoup Thierry Colombier, Philippe Bujol d'avoir été avec nous à Marseille, donc à la terrasse des Danaïdes. Les préoccupations des frères s'invitent dans ton Walkman.